On est dans le mois sur la famille et on s'est posé la question pourquoi pas aussi utiliser un ou deux mardis hein, pour certains aspects qu'on n'aura pas forcément le temps de voir le dimanche. Et aujourd'hui, je vous envoyais un petit message hein, et on va considérer en partie parce que Jésus dit beaucoup de choses, mais ce que Jésus dit sur le mariage. D'accord? Sur la famille, un peu. Et particulièrement, ce qu'on appelle les phrases surprenantes ou choquantes, pourrait dire, de Jésus sur le mariage et sur la famille. Alors, j'ai fait des petites questions, c'est les mêmes pour tout le monde, mais ce n'est pas les mêmes passages bibliques que vous aurez. D'accord? Donc, il y a trois groupes ou parfois. Plusieurs groupes de versets, mais il y en a trois, plusieurs versets, pardon, trois groupes, mais parfois plusieurs versets dans un groupe. Alors j'ai appelé ça texte 1, texte 2 et texte 3. Je ne vais pas tout faire, ce n'est pas grave. Donc, première chose qu'on veut voir, on va essayer de voir texte par texte, ok? C'est-à-dire texte 1, texte 2 et texte 3, hein, pas mélanger. Comme ça, vous avez le temps d'écrire un peu plus précisément si vous voulez. Donc, premier texte, c'était surtout le texte principal, c'était dans Matthieu, chapitre 19, versets 1 à 12. Donc, on ne va pas tout relire, mais c'est quoi le contexte ici de ce passage? Oui, plus précisément au début, voilà, la question est posée sur le divorce. Le divorce, mais Jésus, lui, il parle du mariage. Donc, c'est une question sur. On pourrait dire que c'est une question sur le mariage. Alors, pour aller vite, alors, dans tous les textes, hein, on peut voir qu'il y a un rapport avec la famille, quand même. Hein. J'espère que vous avez vu ça dans le groupe 2 et que vous avez aussi vu cela dans le groupe 3. Au moins d'un aspect, quelque chose qui traite de la famille. Jésus ici, il dit, donc ce qu'on veut faire, on veut se focaliser sur ce que Jésus dit des fois, et peut-être pour nous ça sonne pas très choquant, mais quelque part ça montre que c'est un peu choquant pour les disciples ou ses contemporains qui l'écoutaient. On veut savoir en quoi c'était choquant pour eux. Donc groupe 1, donc le groupe, c'est pour rappeler à tout le monde, hein, c'est le passage où les pharisiens viennent voir Jésus et puis lui demandent, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque, et puis Jésus les renvoie à la création, et puis ensuite il y a un certain nombre de choses. Donc on va quand même lire le passage. Il répondit, n'avez-vous pas lu au commencement le Créateur fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous le dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère et sont devenus, pardon, il y en a qui sont devenus par les hommes, il y en a qui sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. Alors, c'est quoi la phrase ou les phrases? Qu'est-ce que Jésus dit qui apparemment est choquant ici, selon vous? Que vous avez mis quoi? Quel verset, par exemple? Le verset 12? Oui. Oui. C'est ça, ça choque. C'est ça qui les choque, les juifs, les disciples qui l'écoutent ou pas? Pour Ebi, oui. Ah bon, d'accord. Mais il faut me donner votre réponse commune, hein? Oh, ok. Qu'est-ce qui. Oui, vous avez mis quoi d'autre? Oui, c'est-à-dire que là où on voit que c'est choquant, c'est à la réaction des disciples. que l'on voit que c'est choquant. Et ils disent à Jésus, si telle est la condition de... Jésus dit, à moins que ce soit pour infidélité, cause d'infidélité, eh bien celui qui répudie sa femme, j'ai perdu le verset, il dit verset 10, verset 9, il dit, celui qui répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère. Et ses disciples lui disent, ici, si telle est la condition de l'homme, il n'est pas avantageux de se marier. Ils ont trouvé la réponse de Jésus extrêmement dure et choquante. Pourquoi ? Alors, on pourrait dire que c'est ce verset-là qui, c'est ce que Jésus dit ici, qui semble le choquant, parce qu'il dit, pourquoi donc Moïse a-t-il permis de donner une lettre de répudiation ? Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et puis, il ajoute, mais je vous dis, c'est ça qui les choque, si un homme divorce de sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, il commet un adultère. Et là, ils disent, ça ne vaut pas la peine de se marier. À quoi ça sert de se marier si c'est pour être dans cette situation-là? Donc, qu'est-ce qui les choque? La monogamie? Dans la phrase de Jésus, qu'est-ce qui est choquant? À votre avis, en quoi c'est choquant? Parce que il se marie. Oui. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils attendaient de Jésus là, ici? Voilà, qu'il permette le divorce, on pourrait dire, d'une certaine manière. Et qu'est-ce que Jésus fait? Est-ce qu'il le permet? Non, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme complètement la porte et il dit, sauf pour cause d'infidélité. D'accord? Mais je le disais que les femmes juives de cette époque ne commettaient pas en général d'infidélité, comme ça, facilement. Donc c'est une manière pour Jésus de dire, sauf dans ce cas-là, on pourrait supposer ça. Hein. Et donc, il trouve qu'il n'y a aucune porte de sortie, en fait. Ils disent parce que la fidélité, ce n'est pas courant. Alors aujourd'hui, on dirait ça. Hein, les mariages, il y a beaucoup de mariages, de divorces qui ont lieu pour cause d'infidélité ou pour moins que ça, etc. Mais en tout cas, l'infidélité, c'est monnaie courante, malheureusement. Mais à l'époque de Jésus, ça n'était pas forcément le cas dans les familles... En tout cas, du côté des femmes juives, donc les disciples trouvent que c'est ce que Jésus dit est extrêmement restrictif, parce que même en donnant cette petite porte-là, ben, c'est une porte fermée, quoi, parce qu'il n'y a pas de possibilité. Donc ils trouvent que Jésus il est dur dans ce qu'il dit. Alors, on pourrait dire ici que ce qui est choquant ici, la phrase de Jésus est choquante en ce qu'elle rend indissoluble le mariage. D'ailleurs, il dit, est-ce que c'est dans ce passage, il dit un peu plus haut, je ne sais pas si c'est dans ce passage où il dit, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a. Oui, au verset 6, il dit, ainsi ils sont deux, ils ne sont plus une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc c'était ça la réponse de Jésus. Il dit, vous êtes mariés, vous ne séparez pas. Qui c'est qui unit dans le mariage, d'après ce passage, d'après Jésus ici, c'est Dieu, c'est pas les hommes. Et il dit donc, ce que Dieu a fait, tu dois pas le défaire en tant qu'homme. Et c'était sa réponse. Et là, il trouve que c'est trop dur et ils disent à Jésus, mais pourquoi Moïse a donné la possibilité de le faire? Et Jésus explique et puis il dit, mais moi je vous dis, voilà. Et là, ils disent, ah non, ça c'est trop dur. Hein. Ils pensaient qu'une petite porte allait s'ouvrir, mais Jésus ferme vraiment la porte du divorce devant eux. Alors, j'ai mis ici, qu'est-ce que Jésus, donc quand on lit la suite, et Jésus continue, et puis il dit, qu'est-ce qu'il fait? Regardez au verset 11, verset 10 et 11. Les disciples disent quoi? Si telle est la condition de l'homme, il n'est pas avantageux de se marier. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, mais non, vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'avantage au mariage. Je ne dis pas, quand je dis que, sauf pour infidélité, voilà ce que ça veut dire. Est-ce que c'est ce qu'il est en train de faire? Non, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ce qu'il considère comme un désavantage. Et en fait, c'est comme s'il leur disait, vous avez tapé dans le mille, c'est exactement ça. Il y a un avantage à ne pas se marier. Et il continue là-dessus. C'est ça qu'il fait en fait ici. Hein. Et donc, il dit ceci, il dit, tous ne comprennent pas cette parole. C'est quoi cette parole ? La parole que les disciples viennent de prononcer. C'est-à-dire, il n'est pas avantageux de se marier. Il dit, vous êtes en train de dire quelque chose sans le savoir qui est très important, mais tous ne comprennent pas ça. Tous ne comprennent pas qu'il peut être avantageux de ne pas se marier. Et puis, il explique pourquoi. Et donc, il dit ici, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, il y en a qui sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc il dit quelque chose de... On sent qu'il dit quelque chose d'important ici. Il rebondit sur ce que disent les disciples, il dit quelque chose qui est très important ici. Alors les eunuques, vous connaissez, hein. Bon, les enfants, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un eunuque, vous posez la question aux parents à la maison, hein. Ils vont vous expliquer clairement ce que c'est. Voilà, la Bible dit que quand ton fils te demandera, tu répondras. Voilà, donc vous avez une occasion ici d'expliquer. Mais ma question, c'est pourquoi Jésus utilise les eunuques ici ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Pourquoi il utilise les eunuques ? Pardon ? Ils sont sans femme ? Ils sont sans, donc, sans descendance aussi ? Pas d'enfants, d'accord. Mais de qui il parle vraiment en utilisant les eunuques dans ce passage? C'est une métaphore pour parler de quoi? Des célibataires. C'est une métaphore pour parler des célibataires. D'accord? Parce qu'il parle, rappelez-vous, on parle du mariage, le divorce, mais ce n'est pas avantageux de se marier. Et Jésus dit, ben oui, il y a un avantage à être célibataire aussi. Hein? Et ça, tout le monde ne le comprend pas. Seulement ceux à qui c'est donné. Donc que celui qui comprenne, comprenne. Il dit, il y a des eunuques, il y a des gens qui sont célibataires par la force des choses. D'accord? Ça peut être par naturellement, par des malformations, par ce que vous voulez. Il peut y avoir des aspects médicaux qui font qu'ils ne peuvent pas se marier, etc. Et puis il y en a d'autres qui sont imposés dans un certain célibat. Et puis il y en a d'autres qui le choisissent volontairement pour servir Dieu. Et il dit ça, c'est quelque chose qui est avantageux, mais tout le monde ne comprend pas ça. Seulement ceux à qui cela est donné. Et que celui à qui c'est donné de comprendre ça, eh bien qu'il le comprenne, c'est-à-dire qu'il l'accepte. Le sens de comprendre ici, c'est accepter, prendre pour soi, recevoir la chose, quoi. En passant, je souligne que puisqu'il fait de l'eunuque l'image du célibataire ici, célibataire, ça a un sens particulier dans la Bible, parce que dans notre monde, célibataire, ça veut juste dire j'ai pas contracté civilement un mariage. Mais les gens parfois vivent à droite à gauche. Ils ont des relations. Ici, célibataire, ça veut dire qu'il n'a pas contracté de mariage et qui est abstinent sexuellement. C'est ce que ça veut dire. Puisque Jésus prend l'image de l'eunuque qui ne peut pas avoir de descendance, voilà, pour pouvoir parler du célibat, quelque part. Donc, qu'est-ce que Jésus semble opposer ici ? Il semble opposer quoi ? Le célibat et le mariage. Il ne les oppose pas vraiment, mais il établit un contraste entre le célibat et le mariage. Et quelle dernière question, quelle réalité spirituelle il met en évidence ici? Oui? Oui? Oui, ça peut être ça. Oui? Ce que Dieu a joint, a uni, oui, c'est ça, oui, il y a cette vérité. Mais s'il oppose les deux choses, hein, on pourrait dire ici, qu'il montre quoi ici ? Qu'il montre que finalement le célibat est aussi quelque chose qui peut être, dans lequel un homme peut être heureux, une femme peut être heureuse, et ils peuvent servir Dieu dans cette condition-là. C'est-à-dire que le mariage en lui-même n'est pas l'apanage, hein, c'est pas le Saint Graal qu'il faut rechercher. Il dit, il y a des gens aussi qui peuvent, par souci de servir Dieu, volontairement refuse de se marier et d'avoir des relations sexuelles avec quiconque pour être efficace dans le service de Dieu. C'est exactement ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Et il dit la même chose, il dit que c'est un don. Le mariage est un don de Dieu. Et puisque les disciples sont en train de dire, mais il vaut mieux pas se marier, si on ne peut pas divorcer, il dit, mais vous savez, ne pas se marier aussi, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et quand on lit dans l'Ancien Testament, il y a des passages sur le nuque. Hein, regardez juste Ésaïe 56, et puis on va prendre les questions 2 tout de suite. Le temps passe vite. Ésaïe 56. Et puis au verset 4, verset 2, il dit « Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple. » Que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec. » Car l'Éternel parle ainsi aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. » Alors, on n'a pas le temps de développer ici, mais vous savez que dans l'Ancien Testament, la manière d'avoir un nom, c'était d'avoir une postérité. Hein? Et c'est une bénédiction. Le psaume 127 dit que les enfants, les fils sont un héritage de l'Éternel. Et les eunuques étaient méprisés par les Juifs, hein? J'ai trouvé cette citation dans un livre où il dit que certains rabbins se moquaient des eunuques en disant « Eunuque, laisse-moi te dire trois choses. L'ornement du visage, c'est la barbe. La gaieté du cœur, c'est la femme. Et l'héritage de Dieu, ce sont les enfants. » C'est une manière de dire ça, vous êtes exclu de cette bénédiction, de cet héritage, parce que vous n'en avez pas. Mais Dieu dit ici, déjà dans l'Ancien Testament, à ceux qui vont se confier en lui, qui vont le servir, qui vont, et c'est ce que Jésus souligne ici, hein, et qui vont être attachés à lui, bien, il donnera une postérité aussi. Il donnera même un nom, pour avoir ce nom-là, il n'aura pas besoin d'être marié, il n'aura pas besoin d'avoir des fils et des filles. Dieu va le lui donner. Dieu va le lui donner. Et c'est une bénédiction absolument grande. Et c'est pour ça que Jésus dit, il y a un avantage, parce qu'il y a une bénédiction particulière, certainement, qu'il accorde à ceux qui acceptent tout ce sacrifice aussi pour le servir. Donc le mariage est un don, on peut servir Dieu pleinement là-dedans, mais aussi le célibat est un don que Dieu donne et on peut le servir pleinement là-dedans. Deuxième série de textes, c'est là-bas, le 2. Je vais un peu vite, hein, ça demanderait à beaucoup, beaucoup de développement, mais juste, on veut juste regarder les questions et puis une leçon à tirer. Hein. Texte 2, Matthieu 12, 46, 50. Je vais le lire, hein, Matthieu 12, 46, 50, peut-être au moins ce texte-là, pour avoir un... quand on sera sur la même longueur d'onde. Matthieu 12. Alors... Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient en dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, comme on a l'impression qu'il étend comme ça, et puis il dit, voilà, voici ma mère, voici mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Qu'est-ce qui est choquant dans ce que Jésus dit ici? Vous aviez d'autres passages, vous aviez aussi Luc 14, hein, où il dit si quelqu'un vient après moi, d'accord, ça, qu'il me suive, il doit faire quoi? Il doit haïr père, mère, frère, sœur, famille, renoncer à tout ce qu'il a pour être son disciple. C'est ce que le texte dit en en filigrane. Et puis en Jean chapitre 19, vous avez aussi Jean chapitre 19, verset 25, c'est quand Jésus dit sur la croix, il dit à qui ? À Jean, fils, voici ta mère. Et puis il dit à Marie, femme, voici ton fils. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'il y a de choquant dans cela ? Si vous regardez un petit peu, qu'est-ce que vous avez mis ? Le verset 48, oui, qui dit ? Oui, qui est ma mère et qui sont mes frères, d'accord. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il y a de choquant là-dedans ? Ça, c'est la question, mais qu'est-ce qu'il y a de choquant là-dedans ? En quoi c'est choquant ? Ça peut sembler être méprisant pour ses parents, ok ? Oui ? Est-ce que Jésus avait de vrais frères et sœurs ? Oui ? Et donc, ça peut sembler comme s'il renie sa famille pour dire que ma famille, c'est cela. Hein. Imaginez, hein, vous arrivez quelque part et puis vos enfants, c'est pas moi, hein, on dit à Élise, tiens Élise, ton père et ta mère te cherchent. Et puis elle dit, qui est mon père ? Qui est ma mère ? Et puis elle regarde tous les petits jeunes de l'église et puis il dit, voici mon père, voici ma mère. Vous voyez, quand vous le prenez comme ça, on rigole, mais c'est... Mais imaginez ça, même un adulte qui fait, c'est vrai que c'est choquant quand même. Surtout si les parents n'étaient pas loin, on dit. Et puis, pour les autres qui disent, mais ils te cherchent, tes frères et tes sœurs te cherchent, et puis il dit, mon frère, ma sœur, là. Alors, il dit pas que les autres ne le sont pas, hein, d'accord ? Mais il dit que ça, c'est mes frères et sœurs aussi. Donc, il y a quelque chose à comprendre là, hein ? Il y a quelque chose à comprendre dans ce que Jésus dit ici. Alors, qu'est-ce qu'il semble opposer là dans ce texte ? Dans ces textes. Oui, enfin, oui, d'accord, on pourrait dire ça, mais c'est quoi, père, frère, sœur, c'est la famille. Donc, il oppose, on a l'impression qu'il oppose deux familles, là. Il a sa famille, où il dit, c'est son père, sa mère, etc. Et puis, il présente une famille avec laquelle il n'y a pas de lien, quoi. Il n'y a pas de lien de sang, il n'y a pas de lien biologique. Et il dit, ça c'est mon frère, c'est ma mère, etc. Hein? Et c'était quelque chose de choquant. Donc il est en train de montrer qu'il y a d'enseigner quoi ici ? Qu'est-ce qu'il nous enseigne ? Qu'il y a une autre famille à laquelle on doit faire attention. Et que même si on est dans une, même s'il existe la famille terrestre, la famille biologique, il y a avec l'Évangile qui est en train de mettre en place une famille d'un autre type à laquelle il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un ne hait son père, sa mère, etc., il dit même que quand on vient à l'Évangile, ça engendre des difficultés dans la famille. Hein? Il dit celui qui, il dit à un moment donné dans un passage que les gens auront pour ennemis, les chrétiens auront pour ennemis les gens de leur propre famille, leur propre maison, leur propre famille terrestre. D'accord ? Et il dit que si on veut venir à lui et le suivre, il faut être capable de rompre les liens avec la famille terrestre. Il ne veut pas qu'il faut la renier, c'est pas cela, mais il dit il y a quelque chose, il y a une opposition qui est en train de s'installer. Et il faut faire attention. Donc, on va essayer d'étayer ça un petit peu plus. Alors, quelle est la réalité spirituelle que Jésus met en évidence ? Mais c'est celle-là. Hein. Il oppose deux familles, mais il montre qu'est-ce qu'il montre en fait ? Si Jésus dit, mon père, ma mère, c'est eux, qu'est-ce qu'il est en train de montrer ? Quel est le rapport de force entre la famille dont il est en train de parler là et la famille terrestre ? Selon vous, il y a une priorité, hein. Il y a des quoi ici. À Marie, il dit, voici, femme, voici ton fils. Mais Marie, elle avait d'autres fils. Et il dit, oui, voilà, il y a quelque chose, un lien spirituel. Mais comment est ce lien spirituel par rapport au lien physique terrestre ? Il est plus fort. Il est plus fort. Comment est-ce qu'on voit qu'il est plus fort ? Eh bien, il dit que quand l'Évangile pénètre quelque part, il brise des choses parfois. Et ces liens-là ne sont pas capables de retenir les liens spirituels qu'il est en train d'instaurer. Hein. Le lien, c'est ce qu'il dit, hein, le lien de la nouvelle famille, on va voir ça tout à l'heure, spirituel, il est bien au-dessus des liens de la famille terrestre. D'accord ? Vous allez quelque part, vous rencontrez des... vous avez des membres de la famille que vous n'avez pas vus depuis longtemps, longtemps, longtemps. D'accord ? Vous les connaissez, mais ils ne sont pas chrétiens. Bon, quand vous les rencontrez, vous êtes content de les rencontrer, mais après, vous oubliez même... voilà, vous avez perdu le contact, etc. Et tout ça, vous n'avez pas beaucoup de choses à dire des fois. Et parfois même, on est un peu bon, on les a vus, on dit « Oui, bon, ben, on se reverra, je suis là pour un mois, on se reverra. » Bon, un mois passe, deux mois passe, trois mois passe, on ne se revoit pas. Mais on est cousin-cousine. Hein? Mais vous allez quelque part dans une église où on, que vous ne connaissez pas. Vous rencontrez des chrétiens que vous n'avez jamais rencontrés dans votre vie. Et tout de suite, il y a quelque chose qui peut se passer. Vous les recevez chez vous pour qu'ils dorment. Vous n'avez jamais rencontré. Ils ne parlent même pas votre langue, parfois. Mais il y a quelque chose qui est là et vous sentez... Ce n'est pas vous qui l'avez fait, c'est le lien que l'Esprit met dans les membres de cette nouvelle famille. Ce sont des liens qui sont très, très forts. Ce sont des liens qui sont très, très forts. Ce sont des liens spirituels que Dieu établit. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut renier sa famille physique, mais ça veut dire qu'on sent que quand on vient à l'Évangile, il y a une famille qui, spirituelle dans laquelle Dieu nous place, qui a des traits de relation plus intenses que la famille physique. Ça, c'est la deuxième réalité. Puis troisième, question 3, texte 3, est-ce que vous avez mis? Alors, le texte 3, c'était... Luc chapitre 11, versets 27 à 28. Luc chapitre 11, je vais le lire encore ici. Luc chapitre 11, versets 27 à 28. 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, hein, il parlait de retour d'esprit impur dans une maison qui avait été chassée. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, « Heureuse, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. » Alors, qu'est-ce qui est, vous avez mis quoi là, comme, qu'est-ce qui vous paraît choquant dans ce que Jésus dit ici? Oui? Verset 28, d'accord? Oui, c'est ce qu'il dit, hein, de toute façon. Oui? À quoi c'est choquant? Ouais, qu'est-ce qui est choquant? Et en quoi c'est choquant, ouais. D'accord, verset 28. Il dit heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Oui.
Moi, j'ai dit que Jésus ne tient pas compte de ce qui pourrait être vu comme un compliment pour sa mère ou pour lui-même, mais il met l'accent sur la valeur supérieure de l'observation de la parole de Dieu.
D'accord, très bien. D'autres, vous avez mis quoi, oui. Ici, en quoi est-ce que c'est choquant? Le mot plutôt. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose de d'heureux de mettre au monde un enfant, d'avoir allaité un enfant comme Jésus pour une femme? Moi, je ne suis pas une femme, hein, mais les femmes peuvent répondre. Hein. Oui, forcément. Est-ce que vous connaissez une femme qui a dit? Et les générations me diront bienheureuse. C'est qui a dit ça? C'est Marie, c'est la mère de Jésus qui a dit ça. Hein? Pourquoi? Parce qu'elle a donné naissance au Seigneur, n'est-ce pas? Et vous savez, dans les familles juives, pourquoi c'est important de se marier? Et quand Jésus parle de célibat qui est une... qui peut être un avantage. C'était choquant, quoi. C'était inconcevable pour eux, parce que se marier et avoir des enfants, c'était premièrement un signe de bénédiction de la part de Dieu, que ce qu'on lit l'Ancien Testament, mais parce que chaque famille juive espérait donner naissance à qui? Au Messie. Et ne pas avoir d'enfants, être un eunuque, être célibataire, c'était être absolument hors de cette possibilité-là. Et donc, cette femme, il dit, oh là là, heureuse les mamelles qui t'ont porté. Okay. Ça vous arrive peut-être de dire, oh, ton enfant, quelle grâce, quelle. Hein? C'est super que Dieu t'ait donné un enfant comme ça. Bon, c'est dommage, moi, j'ai une famille, etc. Et Jésus dit quoi ici? Il dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Et donc, qu'est-ce qu'il oppose ici? Vous avez dit, il oppose quoi? Voilà, l'observation de la parole de Dieu. À quoi? Oui, au fait d'avoir un enfant, même un enfant parfait. C'est une bénédiction. Mais il dit qu'il y a quelque chose qui est plus grand que ça, que de mettre au monde même Jésus, c'est d'avoir une relation avec Jésus à travers sa parole. Il dit ça, heureux plutôt ceux qui ont communion avec Dieu par sa parole. C'est ça qu'il faut rechercher. Il dit que la bénédiction n'est pas dans la famille, dans le fait d'engendrer, dans le fait d'allaiter. Ce n'est pas dans l'aspect physique des choses matérielles, terrestres des choses. Elle est dans, encore une fois, dans une réalité spirituelle, dans la communion spirituelle qu'on peut avoir avec Dieu. Alors, juste pour conclure, hein, rassembler un petit peu ce qu'on a dit, hein, que nous montrent ces phrases, on pourrait dire ces phrases choc, hein, de Jésus, hein, j'appelle ça comme ça, parce que quand même, pour nous, ça nous choque pas beaucoup, mais il faut vous mettre à la place des Juifs avec toute l'importance qu'avait la famille, la descendance, la postérité. Et quand Jésus dit des choses comme ça, c'est choquant pour eux. Donc, les vérités spirituelles, on les rassemble ici. C'est que, on pourrait dire, premièrement, Jésus montre qu'il y a une nouvelle famille que Dieu crée par l'Évangile. Il y a une nouvelle famille que Dieu crée par l'Évangile. Et que, certes, la famille traditionnelle, la famille biologique, la famille physique, elle a son importance. Et Jésus, il défend cette famille-là. Quand il dit « Honore ton père et ta mère », ou quand il reproche aux pharisiens d'avoir inventé tout un système pour éviter d'être un support financier pour leurs parents, il dit, vous méprisez la parole de Dieu quand vous faites ça. Parce que la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère. Donc il défend la famille, il défend les enfants. Il dit bien, quand on amène des enfants, il dit, si vous ne devenez comme un petit enfant, vous ne pourrez entrer dans le royaume de Dieu. Mais il dit, à côté de ça, et il dit, il ne faut pas perdre cela de vue, c'est que il y a une famille spirituelle que Dieu crée. Et dans cette famille, pour y entrer, on ne rentre pas par la naissance physique, mais on y entre par la nouvelle naissance. Hein, comme disait quelqu'un, on ne rentre pas par la procréation, mais on y rentre par la régénération. Hein. Ça veut dire être né de nouveau, comme Jésus disait à Nicodème. Ce n'est pas une famille dans laquelle on rentre par des relations sexuelles pour avoir des enfants, mais par le fait de naître du Saint-Esprit. Donc, dans ce cas-là, dans cette famille-là, l'eunuque, il a sa place, le célibataire a sa place, comme les personnes mariées, n'est-ce pas? C'est magnifique de voir ce que Jésus est en train de créer. Donc, quand on parle de famille, parfois, on peut avoir l'impression, bon, voilà, moi j'ai pas de famille, sans j'ai pas d'enfants, je suis pas marié, c'est pas pour moi, c'est pour ceux. Mais oui, faut considérer que ça parle de la famille terrestre, d'accord? Mais ce que Jésus dit, même à partir de la famille terrestre, c'est qu'il y a une famille encore plus grande qu'il est en train de construire, hein, et qui elle n'est pas temporelle, parce qu'on peut être marié un temps et puis ne pas l'être si l'un décède. On peut être marié et ne pas avoir des enfants. Et puis on peut être marié, avoir des enfants et ne plus avoir des enfants. C'est arrivé à Job, n'est-ce pas? Et donc, c'est une situation précaire. Tandis que la famille spirituelle que Dieu est en train de concevoir, de construire
par le sacrifice de Christ à la croix, n'est pas une famille précaire. C'est une famille solide, éternelle, qui durera pour toujours. Et Éphésiens 2, 18, 19 dit, « Car par lui, par Jésus-Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du... » De qui ? Du Père. C'est un thème qui évoque la famille. Accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni gens du dehors, comme pourrait l'être le Nuque, la Moabite, etc. Ils ne sont plus étrangers, ni gens du dehors, mais pour nous aussi, nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison, c'est un terme familial, gens de la maison de Dieu. Et c'est ainsi que le chrétien doit se voir. Certes, c'est une grâce, une bénédiction que Dieu donne quand il donne une famille. Mais Jésus dit que c'est aussi une bénédiction quand on est célibataire, parce qu'il y a des choses qu'il promet aussi. Il faut considérer les deux choses comme venant de Dieu. Mais il dit que ce qui est encore davantage, c'est la famille qu'il crée avec les enfants, les mariés, les pas mariés, les célibataires, etc. Tout cela, cette famille constituée par son esprit qu'il fait habiter dans nos cœurs. Donc ça, c'est important de voir ici. Jésus dit, il y a une nouvelle famille que Dieu crée et nous devons être sensibles à cela. Deuxième chose, c'est que les liens de la nouvelle famille sont bien plus forts que ceux de la famille traditionnelle. Et ça, il nous faut le croire, même si nous ne le croyons pas. C'est la vérité, c'est ce que Jésus dit. Les liens de cette famille-là sont bien plus forts que les liens de la famille traditionnelle. Je le dis, il ne demande pas de négliger nos responsabilités familiales, terrestres. Mais trop souvent, on utilise parfois nos responsabilités familiales terrestres comme un prétexte pour ne pas remplir nos responsabilités familiales spirituelles. Vous comprenez ce que je dis ? Hein? Parfois, on trouve des prétextes. Oui, mais j'avais quelque chose à faire en famille. Bon, c'est la famille, tu comprends. On se réunit. Et parfois, on peut louper des cultes pour être avec la famille où il ne va rien se passer de spirituel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être avec la famille. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais parfois, on peut être léger sur ces choses-là. D'accord ? Pour être prêt à 13 heures à aller manger dans la famille, on se dit, si je vais au culte, je n'aurai pas le temps. Donc, je vais rester à la maison et puis je vais me préparer pour aller au repas de famille. Je crois que c'est faire du lien familial terrestre quelque chose qui, pour nous, est plus fort que le lien spirituel, de la famille spirituelle. Non, on doit, et les gens du monde doivent le voir que pour nous, la famille de Dieu, c'est quelque chose. Et que rien ne saurait se mettre au-dessus des liens de la famille de Dieu. S'il s'agit d'aller simplement d'aller manger quelque part, plutôt que d'aller au culte, il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Il n'y a pas à hésiter. Les gens doivent lire, ah, ça c'est important pour lui. Les gens de notre propre famille doivent lire cela. Okay. Je me souviens, on avait une tante qui habitait dans l'Oise et souvent elle nous invitait le dimanche. Le dimanche, je dis, oh, dimanche, c'est compliqué, tintin, tati, hein, c'est compliqué. Ok, mais on va venir. Mais on ne sera pas à l'heure. On dit, parce que nous, on va au culte, avec toute la famille, et on viendra après. Et on a toujours fait comme ça, dans toutes les invitations ou la famille du dimanche. Et parfois, on n'est pas allé parce qu'il fallait arriver à cette année, on ne pouvait pas être à l'heure, on dit, ben, c'est pas grave, on ne viendra pas. Sinon, on viendra un samedi. Et il faut parfois marquer ces choses pour dire, c'est un exemple comme ça, un petit exemple, mais il y a plein d'autres domaines où on doit marquer pour nous l'importance des liens familiaux spirituels. Il faut que nos frères et sœurs aient pour nous de l'importance. Ça, c'est une chose. Et puis, un dernier point que je voudrais dire, c'est que la communion avec Christ, on l'a dit tout à l'heure, la communion avec Christ, hein, dans la nouvelle famille, est la véritable source de bénédiction. C'est pas ce qu'on peut tirer de la famille matérielle qui est la vraie source de bénédiction, les enfants. Certes, la Bible dit qu'un fils sage fait la joie de son père. Donc c'est une joie d'avoir un fils qui marche avec le Seigneur, qui n'a pas dévié. Mais ce n'est pas la principale source de bénédiction que Dieu donne à l'enfant de Dieu. La principale source de bénédiction, elle est dans le fait d'avoir une relation avec Dieu par sa parole. Et ça, tous peuvent l'avoir, que l'on soit marié ou que l'on soit célibataire. Juste quelques petites pensées ici, en application. Nous ne devons pas faire du mariage une fixation ou une idolâtrie. Parfois, on voit des gens qui ne sont pas mariés depuis longtemps, puis on dit, « Mais alors, qu'est-ce que tu attends ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Bouge, sors un peu, visite des églises !» Et on met une pression, c'est vrai, parfois sur les gens, et on ne se rend pas compte, mais on fait comme si le fait de ne pas être marié, c'est une tare, quoi. C'est, ben oui, je parlais une fois avec quelqu'un qui me dit, « Oui, bon, ben, lui, il faudrait qu'il soit marié, parce que s'il était marié, il serait mieux. » J'ai dit, « Frère, est-ce que tu sais ce que Dieu veut pour lui ?» Pas. « Non, tu ne sais pas. » Donc, le mariage ne va pas arranger sa situation. Ce n'est pas ça qu'il faut. Si Dieu, on peut prier pour que quelqu'un trouve une âme sœur, que cette personne soit. On peut prier pour cela. Mais il ne faut pas que ça devienne une fixation, un objet d'idolâtrie, au point où on met une pression telle sur les gens qu'ils finissent par se marier avec le premier venu. Il ne faut pas faire non plus une fixation sur le célibat. D'accord ? Mais, voilà, gardons les choses dans leur bon équilibre. Jésus nous montre qu'il y a une famille qui est importante, que nous devons vivre avec l'Évangile, et on ne doit pas rater ça. Et puis, dernier point, célibataires et mariés doivent donc faire l'effort pour vivre les réalités de la nouvelle famille. On doit avoir les uns vers les autres, hein, les relations comme Dieu veut, parce que nous sommes en fait frères et sœurs dans cette famille-là. Il ne doit pas avoir le camp des mariés, puis le camp des célibataires. Hein. Parfois, on peut voir ça, hein. Tous les célibataires se regroupent entre eux, et puis les gens mariés, ils s'invitent entre eux. Non, nos foyers doivent être ouverts. C'est-à-dire que ce que Jésus dit ici doit nous pousser à l'hospitalité les uns envers les autres. Les célibataires doivent être accueillis dans les foyers des gens mariés, mais les gens mariés doivent être accueillis dans les foyers des célibataires quand c'est possible de le faire. On doit vivre les liens de cette nouvelle famille. Voilà, je m'arrête là. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses, hein, et à remercier Dieu, à le glorifier pour cette famille qu'il crée, hein, en Jésus-Christ et par son esprit.